Chapitre 2. Capre. Il y a peu de points dans le monde qui offrent autant de souvenirs historiques que Capre. Ce n'était qu'une île comme toutes les îles, plus riante peut-être, voilà tout. Lorsqu'un jour Auguste résolut d'y faire un voyage. Au moment où il y abordait, un vieux chêne dont la sève semblait à tout jamais tarie releva ses branches desséchées et déjà penchées vers la terre. Et dans la même journée, l'arbre se couvrit de bourgeons et de feuilles. Auguste était l'homme au présage. Il fut si fort enchanté de celui-ci qu'il proposa aux Napolitains de leur abandonner l'île d'Onoari s'il voulait lui céder celle de Capre. L'échange fut fait à cette condition. Auguste fit de Capre un lieu de délices. Il demeura 4 ans et lorsqu'il mourut, légua l'île à Tibère. Tibère s'y retira à son tour, comme se retire dans son antre un vieux tigre qui se sent mourir. Là seulement, entouré de vaisseaux qui, nuit et jour, le gardaient, il se crut à l'abri du poignard et du poison. Sur ces roches, où il n'y a plus aujourd'hui que des ruines, s'élevaient alors 12 villas impériales, portant les noms des 12 grandes divinités de l'Olympe. Dans ces villas, dont chacune servait durant 1 mois de l'année de forteresse à l'empereur, et qui étaient soutenues par des colonnes de marbre dont les chapiteaux dorés soutenaient des frises d'agate, il y avait des bassins de porphyre, où étincelaient les poissons argentés du Gange, des pavés de mosaïques, dont les dessins étaient formés d'opales, d'émeraudes et de rubis, des bains secrets et profonds, où des peintures lascives éveillaient des désirs terribles, en retraçant des voluptés inouïes. Autour de ces villas, au flanc de ces montagnes nues aujourd'hui, s'élevaient alors 2 forêts de cèdres et des bosquets d'orangers, où se cachaient de beaux adolescents et de belles jeunes filles, qui, déguisées en faune et en dryade, en satyre et en bacchante, chantaient des hymnes à Vénus, tandis que d'invisibles instruments accompagnaient leurs voix amoureuses. Et quand le soir était venu, quand une de ces nuits transparentes et étoilées comme l'Orient seul dans ses fers pour l'amour, s'était abaissée sur la mer endormie, quand une brise embaumée soufflant de Sorrente à Pompéia venait se mêler au parfum que des enfants vêtus en amour brûlaient incessamment sur des trépieds d'or, quand des cris voluptueux, des harmonies mystérieuses, des soupirs étouffés frémissaient vagues et confus comme si l'île amoureuse tressaillait de plaisir entre les bras d'un dieu marin, un phare immense s'allumait qui semblait un soleil nocturne. Bientôt à sa lueur, on voyait sortir de quelques grottes et marcher le long de la grève, entre son astrologue Thrasyl et son médecin Chariclès, un vieillard vêtu de pourpre, au cou raide et penché, au visage silencieux et morne, secouant de temps en temps une forêt de cheveux argentés qui retombait sur ses larges épaules, ondulant comme la crinière d'un lion. Le vieillard laissait tomber de ses lèvres quelques mots rares et tardifs, tandis que sa main, au geste efféminé, caressait la tête d'un serpent privé qui dormait sur sa poitrine. Ces mots, c'étaient quelques vers grecs qu'il venait de composer, quelques ordres pour des débauches secrètes dans la villa de Jupiter ou de Cérès, quelques sentences de mort qui, le lendemain, allaient sur les ailes d'une galère latine aborder à Ostie et épouvanter Rome. Car ce vieillard, c'était le divin Tibère, le 3e César, l'empereur aux grands yeux fauves, qui, pareil à ceux du chat, du loup et de la hyène, voyait clair dans l'obscurité. Aujourd'hui, de toutes ces magnificences, il ne reste plus que des ruines. Mais, plus vivace que la pierre et le marbre, la mémoire du vieil empereur est demeurée tout entière. On dirait, tant son nom est encore dans toutes les bouches, que c'est d'hier qu'il s'est couché dans la tombe parricide que lui avait préparée Caligula, et où le poussa Macron. On dirait qu'à défaut de son corps, on tremble encore devant son ombre. Et les habitants de Capri et d'Anna Capri, les 2 cités de l'île, montrent encore les restes de son palais avec la même terreur qu'il montrerait un volcan éteint, mais qui, à chaque jour, à chaque heure, à chaque minute, peut se ranimer plus mortel et plus dévorant que jamais. Ces 2 cités sont situées Capri, en amphithéâtre en face du port, et Anna Capri, au haut du mont Solar. Un escalier de 500 ou 600 marches, rude et creusée dans le roc, conduit de la première à la seconde de ces 2 villes, Mais la fatigue de cette rapide ascension est largement rachetée, il faut le dire, par le panorama splendide que l'œil embrasse une fois arrivé au sommet de la montagne. En effet, le voyageur, en faisant face à Naples, a d'abord à sa droite Paestum, cette fille voluptueuse de la Grèce, dont les rosées, qui fleurissaient deux fois l'an dans un air mortel à la virginité, allaient se faner au front d'Horace et s'effeuiller sur la table de Mécène. Puis Sorrente, où le vent qui passe emporte avec lui la fleur des orangers qu'il disperse au loin sur la mer. Puis Pompéi, endormie dans sa cendre, et qu'on réveille comme une vieille ruine d'Égypte, avec ses peintures ardentes, ses urnes lacrymales et ses bandelettes mortuaires. Enfin Herculanum, qui, surprise un jour par la lave, cria, se tordit et mourut comme Lacoon, étouffé au nœud de ses serpents. Alors commence Naples, car Tordel Greco, Résine et Portici ne sont, à vrai dire, que des faubourgs. Naples, la ville paresseuse, couchée sur son amphithéâtre de montagne et allongeant ses petits pieds jusqu'au flot tiède et lascif de son golfe. Naples, dont Rome, la reine du monde, avait fait sa maison de plaisance, tant alors comme aujourd'hui la nature avait versé autour d'elle tous ses enchantements. Puis après Naples, l'œil découvre Pouzols et son temple de Sérapis, à moitié caché dans l'eau. Cumes et son antre sibyllin, où descendit le pieux Héné. Puis le golfe où Caligula jeta, pour surpasser Xerxès, un pont d'une lieue dont on aperçoit encore les ruines. Puis Baoli, d'où partit la galère impériale, préparée par Néron et qui devait s'ouvrir sous les pieds d'Agrippine. Puis Baïa, si mortelle aux chastes amants. Puis enfin Misène, où est enterré le clairon d'Aîné, et d'où Pline l'Ancien alla mourir, étouffé dans sa litière par les cendres de Stabia. Figurez-vous le tableau que nous venons de décrire, éclairé par ce phare immense qu'on appelle le Vésuve. Et dites-moi s'il y a dans le monde entier quelque chose qui puisse se comparer à un pareil spectacle. Au milieu de ces souvenirs antiques surgit, sous les pieds, un souvenir tout moderne. C'est un épisode de cette épopée gigantesque qui commença en 1789 et qui finit en 1815. Depuis 2 ans déjà, les Français étaient maîtres du royaume de Naples. Depuis 15 jours, Murat en était roi. Et cependant, Capre appartenait encore aux Anglais. 2 fois, son prédécesseur Joseph en avait tenté la conquête, et 2 fois la tempête, cet éternel allié de l'Angleterre, avait dispersé ses vaisseaux. C'était une vue terrible pour Murat, que celle de cette île qui lui fermait sa rade, comme avec une chaîne de fer. Aussi le matin, lorsque le soleil se levait derrière Sorrente, c'était cette île qui attirait tout d'abord ses yeux. Et le soir, lorsque le soleil se couchait derrière Procidia, c'était encore cette île qui fixait son dernier regard. À chaque heure de la journée, Murat interrogeait ceux qui l'entouraient à l'endroit de cette île. Et il apprenait, sur les précautions prises par Utzonlove, son commandant, des choses presque fabuleuses. En effet, Utzonlove ne s'était point fié à cette ceinture inabordable de rochers à pic qui l'entoure et qui suffirait à Tibère. 4 forts nouveaux avaient été ajoutés par lui aux forts qui existaient déjà. Il avait fait effacer par la pioche et rompre par la mine les sentiers qui serpentaient autour des précipices et où les chevriers eux-mêmes n'osaient passer que pieds nus. Enfin, il accordait une prime d'une guinée à chaque homme qui parvenait, malgré la surveillance des sentinelles, à s'introduire dans l'île par quelque voie qui n'eût point été ouverte encore à d'autres qu'à lui. Quant aux forces matérielles de l'île, Utzonlove avait à sa disposition 2000 soldats et 40 bouches à feu, qui en s'enflammant allaient porter l'alarme dans l'île de Ponz, où les Anglais avaient à l'ancre 5 frégates, toujours prêtes à courir où le canon les appelait. De pareilles difficultés eussent rebuté tout autre que Murat. Mais Murat était l'homme des choses impossibles. Murat avait juré qu'il prendrait Capre, et quoi qu'il n'eût fait ce serment que depuis 3 jours, il croyait déjà avoir manqué à sa parole, lorsque le général Lamarque arriva. Lamarque venait de prendre Gaeta et Marétae. Lamarque venait de livrer 11 combats et de soumettre 3 provinces. Lamarque était bien l'homme qu'il fallait à Murat. Aussi, sans lui rien dire, Murat le conduisit à la fenêtre, lui remit une lunette entre les mains et lui montra l'île. Lamarque regarda un instant, vit le drapeau anglais qui flottait sur les forts de San Salvador et de San Miguel. renfonça avec la paume de sa main les quatre tubes de la lunette les uns dans les autres et dit « Oui, je comprends. Il faudrait l'apprendre. »« Eh bien, » reprit Murat. « Eh bien, » répondit Lamarque, « on l'apprendra, voilà tout. »« Et quand cela ?» demanda Murat. « Demain, si votre majesté le veut. »« À la bonne heure, » dit le roi. « Voilà une de ces réponses comme je les aime. »« Et combien d'hommes veux-tu ?»« Combien sont-ils ?» demanda Lamarque. « 2000 à peu près. » « Eh bien, que votre majesté me donne 1500 ou 1800 hommes, qu'elle me permette de les choisir parmi ceux que je lui amène. Ils me connaissent, je les connais. Nous nous ferons tous tuer jusqu'au dernier, ou nous prendrons l'île. » Murat, pour toute réponse, tendit la main à Lamarque. C'était ce qu'il aurait dit étant général. C'était ce qu'il était prêt à faire étant roi. Puis, tous deux se séparèrent. Lamarque pour choisir ses hommes, Murat pour réunir les embarcations. Dès le lendemain, tout était prêt, soldats et vaisseaux. Dans la soirée, l'expédition sortit de la rade. Quelques précautions qu'on eût prises pour garder le secret s'était répandu. Toute la ville était sur le port, saluant de la voix cette petite flotte, qui partait gaiement et pleine d'insouciance, confiante, pour une chose que l'on regardait comme impossible. Bientôt le vent, favorable d'abord, commença de faiblir. La petite flotte n'avait pas fait 10 000 qu'il tomba tout à fait. On marcha à la rame, mais la rame est lente, et le jour parut que l'on était encore à 2 lieues de Capri. Alors, comme s'il avait fallu lutter contre toutes les impossibilités, vint la tempête. Les flots se brisèrent avec tant de violence contre les rochers à pic qui entourent l'île, qu'il n'y eut pas moyen pendant toute la matinée de s'en approcher. À 2 heures, la mer se calma. À 3 heures, les premiers coups de canon furent échangés entre les bombardes napolitaines et les batteries du port. Les cris de 400 000 âmes répandus depuis Margeline jusqu'à Portici leur répondirent. En effet, c'était un merveilleux spectacle que le nouveau roi donnait à sa nouvelle capitale. Lui-même, avec une longue vue, se tenait sur la terrasse du palais. Des embarcations, on voyait toute cette foule étagée aux différents gradins de l'immense cirque dont la mère était la reine. César, Auguste, Néron n'avaient donné à leur sujet que des chasses, des luttes de gladiateurs et des nomachis. Murat donnait aux siens une véritable bataille. La mer était redevenue tranquille comme un lac. Lamarque laissa ses bombardes et ses chaloupes canonnières aux prises avec les batteries du fort. Et avec ses embarcations de soldats, il longea l'île. Partout des rochers à pic baignaient dans l'eau leurs murailles gigantesques. Nulle part, un point où aborder. La flottille fit le tour de l'île sans reconnaître un endroit où mettre le pied. Un corps de 1200 Anglais, suivant des yeux tous ses mouvements, faisait le tour en même temps qu'elle. Un moment, on crut que tout était fini et qu'il faudrait retourner à Naples sans rien entreprendre. Les soldats offraient d'attaquer le fort, mais Lamarque secoua la tête. C'était une tentative insensée. En conséquence, il donna l'ordre de faire une seconde fois le tour de l'île, pour voir si l'on ne trouverait pas quelques points abordables, et qui eût échappé au premier regard. Il y avait, dans un rentrant, au pied du fort Sainte-Barbe, un endroit où le rempart granitique n'avait que 40 à 45 pieds d'élévation. Au-dessus de cette muraille, lisse comme un marbre poli, s'étendait un talus si rapide, qu'à la première vue, on n'eût certes pas cru que des hommes puissent l'escalader. Au-dessus de ce talus, à 500 pieds du roc, était une espèce de ravin, et 1200 pieds plus haut encore, le fort Sainte-Barbe, dont les batteries battaient le talus en battant par-dessus le ravin dans lequel les boulets ne pouvaient plonger. Lamarque s'arrêta en face du rentrant, appela à lui l'adjudant général Thomas et le chef d'escadron Livron. Tous trois tinrent conseil un instant. Puis ils demandèrent les échelles. On dressa la première échelle contre le rocher. Elle atteignait à peine au tiers de sa hauteur. On ajouta une seconde échelle à la première, on l'assura avec des cordes et on les dressa de nouveau toutes deux. Il s'en fallait de 12 ou 15 pieds, quoique réunis, qu'elles atteignissent le talus. On en ajouta une troisième. On l'assujettit aux deux autres avec la même précaution qu'on avait prise pour la seconde. Puis on mesura de nouveau la hauteur. Cette fois, les derniers échelons touchaient à la crête de la muraille. Les Anglais regardaient faire tous ces préparatifs d'un air de stupéfaction, qui indiquait clairement qu'une pareille tentative leur semblait insensée. Quant aux soldats, ils échangeaient entre eux un sourire qui signifiait « Bon, il va faire chaud tout à l'heure ». Un soldat mit le pied sur l'échelle. « Tu es bien pressé », lui dit le général Lamarque en le tirant en arrière. Et il prit sa place. La flottille tout entière battit des mains. Le général Lamarque monta le premier et tous ceux qui étaient dans la même embarcation le suivirent. 6 hommes tenaient le pied de l'échelle qui vacillait à chaque flot que la mer venait briser contre le roc. On eût dit un immense serpent qui dressait ses anneaux onduleux contre la muraille. Tant que ces étranges escaladeurs n'eurent point atteint le talus, ils se trouvèrent protégés contre le feu des Anglais, par la régularité même de la muraille qu'ils gravissaient. Mais à peine le général Lamarque eut-il atteint la crête du rocher, que la fusillade et le canon éclatèrent en même temps. Sur les 15 premiers hommes qui abordèrent, 10 retombèrent, précipités. À ces 15 hommes, 20 autres succédèrent, suivis de 40, suivis de 100. Les Anglais avaient bien fait un mouvement pour les repousser à la baïonnette, mais le talus que les assaillants gravissaient était si rapide qu'ils n'osèrent point s'y hasarder. Il en résulta que le général Lamarque et une centaine d'hommes, au milieu d'une pluie de mitrailles et de balles, gagnèrent le ravin et la mer. Et là, à l'abri comme derrière un épaulement, se formèrent en peloton. Alors les Anglais chargèrent sur eux pour les débusquer, mais ils furent reçus par une telle fusillade qu'ils se retirèrent en désordre. Pendant ce mouvement, l'ascension continuait et 500 hommes à peu près avaient déjà pris terre. Il était 4h30 du soir. Le général Lamarque ordonna de cesser l'ascension. Il était assez fort pour se maintenir où il était. Et effrayé du ravage que faisait l'artillerie et la fusillade parmi ses hommes, il voulait attendre la nuit pour achever le périlleux débarquement. L'ordre fut porté par l'adjudant général Thomas, qui traversa une seconde fois le talus sous le feu de l'ennemi, gagna contre toute espérance l'échelle sans accident aucun, et redescendit vers la flottille, dont il prit le commandement et qu'il mit à l'abri de tout péril dans la petite baie que formait le rentrant du rocher. Alors l'ennemi réunit tous ses efforts contre la petite troupe retranchée dans le ravin. 5 fois, 1300 ou 1400 Anglais vinrent se briser contre Lamarque et ses 500 hommes. Sur ces entrefaites, la nuit arriva. C'était le moment convenu pour recommencer l'ascension. Cette fois, comme l'avait prévu le général Lamarque, elle s'opéra plus facilement que la première. Les Anglais continuaient bien de tirer, mais l'obscurité les empêchait de tirer avec la même justesse. Au grand étonnement des soldats, cette fois, l'adjudant général Thomas monta le dernier. Mais on ne tarda point à avoir l'explication de cette conduite. Arrivé au sommet du rocher, il renversa l'échelle derrière lui. Aussitôt les embarcations gagnèrent le large et reprirent la route de Naples. Lamarque, pour s'assurer la victoire, venait de s'enlever tout moyen de retraite. Les deux troupes se trouvaient en nombre égal, les assaillants ayant perdu 300 hommes à peu près. Aussi Lamarque n'hésita point, et mettant la petite armée en bataille, dans le plus grand silence, il marcha droit à l'ennemi sans permettre qu'un seul coup de fusil répondît au feu des Anglais. Les deux troupes se heurtèrent, les baïonnettes se croisèrent, on se prit corps à corps, les canons du fort Sainte-Barbe s'éteignirent, car Français et Anglais étaient tellement entremêlés qu'on ne pouvait tirer sur les uns sans tirer en même temps sur les autres. La lutte dura 3 heures. Pendant 3 heures, on se poignarda à bout portant. Au bout de 3 heures, le colonel Haussel était tué. 500 Anglais étaient tombés avec lui, le reste était enveloppé. Un régiment se rendit tout entier. C'était le Royal Malte. 900 hommes furent faits prisonniers par Ronsan. On les désarma, on jeta leurs sabres et leurs fusils à la mer. 300 hommes restèrent pour les garder. Les 800 autres marchèrent contre le fort. Cette fois, il n'y avait même plus d'échelle. Heureusement, les murailles étaient basses. Les assiégeants montèrent sur les épaules les uns des autres. Après une défense de 2 heures, le fort fut pris. On fit entrer les prisonniers et on les y enferma. La foule qui garnissait les quais, les fenêtres et les terrasses de Naples, curieuses et avides, était restée malgré la nuit. Au milieu des ténèbres, elle avait vu la montagne s'allumer comme un volcan. Mais sur les 2 heures du matin, les flammes s'étaient éteintes, sans que l'on sût qui était vainqueur ou vaincu. Alors l'inquiétude fit ce qu'avait fait la curiosité. La foule resta jusqu'au jour. Au jour, on vit le drapeau napolitain flotter sur le fort Sainte-Barbe. Une immense acclamation, poussée par 400 000 personnes, retentit de Sorrente à Misène, et le canon du château Saint-Elme, dominant de sa voix de bronze toutes ces voix humaines, vint apporter à la marque les premiers remerciements de son roi. Cependant, la besogne n'était qu'à moitié faite. Après être monté, il fallait descendre, et cette seconde opération n'était pas moins difficile que la première. De tous les sentiers qui conduisaient d'un Capri à Capri, Hutchinlow n'avait laissé subsister que l'escalier dont nous avons parlé. Or cet escalier, que bordent constamment des précipices, large à peine pour que deux hommes puissent le descendre de front, déroulait ses 480 marches à demi-portée du canon de 12 pièces de 36 et de 20 chaloupes canonnières. Néanmoins, il n'y avait pas de temps à perdre, et cette fois la marque ne pouvait attendre la nuit. On découvrait à l'horizon toute la flotte anglaise que le bruit du canon avait attirée hors du port de Ponds. Il fallait s'emparer du village avant l'arrivée de cette flotte, où sans cela, elle jetait dans l'île trois fois autant d'hommes qu'en avait celui qui était venu pour la prendre. Et, obligés devant des forces si supérieures de se renfermer dans le fort Sainte-Barbe, les vainqueurs étaient forcés de se rendre ou de mourir de faim. Le général laissa 100 hommes de garnison dans le fort Sainte-Barbe, et avec les 1000 hommes qui lui restaient, tenta la descente. Il était 10 heures du matin. La marque n'avait moyen de rien cacher à l'ennemi. Il fallait achever comme on avait commencé, à force d'audace. Il divisa sa petite troupe en 3 corps, prit le commandement du premier, donna le second à l'adjudant général Thomas, et le troisième au chef d'escadron Livron. Puis, au pas de charge et tambour battant, il commença de descendre. Ce dut être quelque chose d'effrayant à voir que cette avalanche d'hommes se ruant par cet escalier jeté sur l'abîme, et cela sous le feu de 60 à 80 pièces de canon. 200 furent précipités qui n'étaient que blessés peut-être, et qui s'écrasèrent dans leur chute. 800 arrivèrent en bas et se répandirent dans ce qu'on appelle la grande marine. Là, on était à l'abri du feu. Mais tout était à recommencer encore, ou plutôt rien n'était achevé. Il fallait prendre Capri, la forteresse principale, et les forts Saint-Michel et Saint-Salvador. Alors et après l'œuvre du courage, vint l'œuvre de la patience. 400 hommes se mirent au travail. En avant des thermes de Tibère, dont les ruines puissantes les protégeaient contre l'artillerie de la forteresse, ils commencèrent à creuser un petit port, tandis que les 400 autres, retrouvant dans leur embrasure les canons ennemis, tournaient les uns vers la ville et préparaient des batteries de brèches, tournaient les autres vers les vaisseaux qu'on voyait arriver luttant contre le vent contraire, et préparaient des boulets rouges. Le port fut achevé vers les 2 heures de l'après-midi. Alors, on vit s'avancer de la pointe du cap Campanette les embarcations renvoyées la veille et qui revenaient chargées de vivres, de munitions et d'artillerie. Le général Lamarque choisit 12 pièces de 24. 400 hommes s'y attelèrent et à travers les rochers, par des chemins qu'ils frayèrent eux-mêmes à l'insu de l'ennemi, les traînèrent au sommet du mont Solar qui domine la ville et les deux forts. Le soir, à 6 heures, les 12 pièces étaient en batterie. 60 à 80 hommes restèrent pour les servir. Les autres descendirent et vinrent rejoindre leurs compagnons. Mais pendant ce temps, une étrange chose s'opérait. Malgré le vent contraire, la flotte était arrivée à portée de canon et avait commencé le feu. 6 frégates, 5 briques, 12 bombardes et 16 chaloupes canonnières assiégeaient les assiégeants, qui à la fois se défendaient contre la flotte et attaquaient la ville. Sur ces entrefaites, l'obscurité vint. Force fut d'interrompre le combat. Naples eut beau regarder de tous ses yeux. Cette nuit-là, le volcan était éteint ou se reposait. Malgré la mer, malgré la tempête, malgré le vent, les Anglais parvinrent pendant la nuit à jeter dans l'île 200 canonniers et 500 hommes d'infanterie. Les assiégés se trouvaient donc alors près d'un tiers plus forts que les assiégeants. Le jour vint, avec le jour, la canonnade s'éveilla entre la flotte et la côte, entre la côte et la terre. Les 3 forts répondaient de leur mieux à cette attaque qui, divisée, en était moins dangereuse pour eux, quand tout à coup quelque chose comme un orage éclata au-dessus de leur tête. Une pluie de fer écrasa à demi-portée les canonniers sur leurs pièces. C'étaient les 12 pièces de 24 qui tenaient à la fois. En moins d'une heure, le feu des trois forts fut éteint. Au bout de 2 heures, la batterie de la côte avait pratiqué une brèche. Le général Lamarque laissa 100 hommes pour servir les pièces qui devaient tenir la flotte en respect, se mit à la tête des 600 autres et ordonna l'assaut. En ce moment, un pavillon blanc fut hissé sur la forteresse. Hudson Law demandait à capituler. 1300 hommes, soutenus par une flotte de 40 à 45 voiles, offraient de se rendre à 700, ne se réservant que la retraite avec armes et bagages. Hudson Law s'engageait en outre à faire entrer la flotte dans le port de Ponza. La capitulation était trop avantageuse pour être refusée. Les 900 prisonniers du fort Sainte-Barbe furent réunis à leurs 1300 compagnons. À midi, les 2200 hommes d'Hudson Law quittaient l'île, abandonnant à Lamarque et à ses 800 soldats la place, les forts, l'artillerie et les munitions. 12 ans plus tard, Hudson commandait dans une autre île, non point cette fois à titre de gouverneur, mais de goélier, et son prisonnier, comme une insulte qui devait compenser toutes les tortures qu'il lui avait fait souffrir, lui jetait à la face cette honteuse reddition de Capre. Je visitais le talus et l'escalier, c'est-à-dire l'endroit par lequel 1500 hommes étaient montés et 1000 étaient descendus. Rien qu'à les regarder, on a le vertige. Chaque marche de l'escalier porte encore la trace de quelques mitrailles. J'avais fait toute cette excursion seul. Jadin avait trouvé une vue à croquer et s'était arrêté au tiers de la montée. Je le rejoignis en descendant et nous regagnâmes ensemble le port. Là, nous fûmes entourés de 25 bateliers qui se mirent à nous tirer chacun de leur côté. C'étaient les Ciceroni de la Grotte d'Azur. Comme on ne peut pas venir à Capri sans voir la Grotte d'Azur, j'en choisis un et Jadin un autre, car il faut une barque et un batelier par voyageur, l'entrée étant si basse et si resserrée qu'on ne peut y pénétrer qu'avec un canot très étroit. La mer était calme, et cependant elle brise, même dans les plus beaux temps, avec une si grande force contre la ceinture des rochers qui entourent l'île, que nos barques bondissaient comme dans une tempête, et que nous étions obligés de nous coucher au fond et de nous cramponner au bord pour ne pas être jetés à la mer. Enfin, après 3 quarts d'heure de navigation, pendant lesquelles nous longeâmes le 6e à peu près de la circonférence de l'île, nos bateliers nous prévinrent que nous étions arrivés. Nous regardâmes autour de nous, mais nous n'apercevions pas la moindre apparence de la plus petite grotte, lorsqu'ils nous montrèrent un point noir et circulaire, que nous apercevions à peine au-dessus de l'écume des vagues. C'était l'orifice de la voûte. La première vue de cette entrée n'est pas rassurante. On ne comprend pas comment on pourra la franchir sans se briser la mer contre le rocher. Comme la question nous parut assez importante pour être discutée, nous la posâmes à nos bateliers, lesquels nous répondirent que nous avions parfaitement raison, en restant assis, mais que nous n'avions qu'à nous coucher tout à fait et que nous éviterions le danger. Nous n'étions pas venus si loin pour reculer. Je donnai le premier l'exemple. Mon batelier s'avança en ramant avec des précautions qui indiquaient que, tout habitué qu'il était à une pareille opération, il ne la regardait cependant pas comme exemple de tout danger. Quant à moi, dans la position où j'étais, je ne voyais plus rien que le ciel. Bientôt, je me sentis soulevé sur une vague. La barque glissa avec rapidité. Je ne vis plus rien qu'un rocher qui sembla pendant une seconde peser sur ma poitrine. Puis tout à coup, je me trouvais dans une grotte si merveilleuse que j'en jetais un cri d'étonnement, et je me relevais d'un mouvement si rapide pour regarder autour de moi que je manquais d'en faire chavirer notre embarcation. En effet, j'avais devant moi, autour de moi, dessus moi, dessous moi et derrière moi des merveilles dont aucune description ne pourrait donner l'idée, et devant lesquels le pinceau lui-même, ce grand traducteur des souvenirs humains, demeure impuissant. Qu'on se figure une immense caverne toute d'azur, comme si Dieu s'était amusé à faire une tente avec quelques restes du firmament. Une eau si limpide, si transparente, si pure, qu'on semblait flotter sur de l'air épaissi, au plafond, des stalactites, pendant comme des pyramides, renversées. Au fond, un sable d'or, mêlé de végétation sous-marine. Le long des parois, qui se baignent dans l'eau, des pousses de corail aux branches capricieuses et éclatantes. Du côté de la mer, un point, une étoile, par lequel entre le demi-jour qui éclaire ce palais de fées. Enfin, à l'extrémité opposée, une espèce d'estrade ménagée comme le trône de la somptueuse déesse qui a choisi pour sa salle de bain l'une des merveilles du monde. En ce moment, toute la grotte prit une teinte foncée, comme la terre lorsqu'au milieu d'un jour splendide, un nuage passe tout à coup devant le soleil. C'était Jadin qui entrait à son tour, et dont la barque fermait l'orifice de la caverne. Bientôt il fut lancé près de moi par la force de la vague qui l'avait soulevé. La grotte reprit sa belle couleur d'azur, et sa barque s'arrêta tremblotante près de la mienne. Car cette mer, si agitée et si bruyante au dehors, n'avait plus au dedans qu'une respiration douce et silencieuse comme celle d'un lac. Selon toute probabilité, la grotte d'Azur était inconnue des anciens. Aucun poète n'en parle. Et certes, avec leur imagination merveilleuse, les Grecs n'eussent point manqué d'en faire le palais de quelque déesse marine au nom harmonieux, et dont ils nous eussent laissé l'histoire. Suétone, qui nous décrit avec tant de détails les thermes et les bains de Tibère, eût bien consacré quelques mots à cette piscine naturelle que le vieil empereur eût choisie sans aucun doute pour théâtre de quelques-unes de ses monstrueuses voluptés. Non, la mer peut-être était plus haute à cette époque qu'elle n'est maintenant, et la merveille marine n'était connue que d'Amphitrite et de sa cour de sirène, de Naïade et de Triton. Mais parfois, comme Diane surprise par Actéon, Amphitrite se courrousse contre ces indiscrets voyageurs qui la poursuivent dans cette retraite. Alors, en quelques instants, la mer monte et ferme l'orifice, de sorte que ceux qui sont entrés ne peuvent plus sortir. En ce cas, il faut attendre que le vent, qui a sauté tout à coup de l'est à l'ouest, passe au sud ou au septentrion. Et il est arrivé que des visiteurs, venus pour passer 20 minutes dans la grotte d'Azur, y sont restés 2, 3 ou même 4 jours. Aussi les bateliers, dans la prévoyance de cet accident, emportent-ils toujours avec eux une certaine quantité d'une espèce de biscuit destiné à nourrir les prisonniers. Quant à l'eau, elle filtre en 2 ou 3 endroits de la grotte, assez abondamment pour que l'on n'ait rien à craindre de la soif. Nous fîmes quelques reproches à notre batelier d'avoir attendu si tard à nous raconter un fait aussi peu rassurant. Mais il nous répondit avec une naïveté charmante. « Dame, excellence, si l'on disait cela tout d'abord aux voyageurs, il y en a la moitié qui ne voudraient pas venir, et ça ferait du tort aux bateliers. » J'avoue que depuis cette circonstance accidentelle, j'étais pris d'une certaine inquiétude qui faisait que je trouvais la grotte d'Azur infiniment moins agréable qu'elle ne m'avait paru d'abord. Malheureusement, notre batelier nous avait raconté ces détails au moment où nous nous déshabillons pour nous baigner dans cette eau si belle et si transparente qu'elle n'a pas besoin, pour attirer les pêcheurs, des chants de la poétique Ondine de Goethe. Nous ne voulûmes point perdre les préparatifs faits. Nous achevâmes ceux qui restaient à faire en toute hâte et nous piquâmes chacun une tête. C'est seulement lorsqu'on est 5 ou 6 pieds au-dessous de la surface de l'eau qu'on peut en apprécier l'incroyable pureté. Malgré le voile qui enveloppe le plongeur, aucun détail ne lui échappe. On aperçoit aussi clairement qu'au travers de l'air, le moindre coquillage du fond ou la moindre stalactite de la voûte. Seulement, chaque chose prend une teinte encore plus foncée. Au bout d'un quart d'heure, nous remontâmes chacun dans notre barque. Et nous nous rhabillâmes sans avoir séduit, à ce qu'il paraît, aucune des nymphes invisibles de cet humide palais, qui n'eussent point manqué, dans le cas contraire, de nous retenir au moins 24 heures. La chose était humiliante, mais, comme nous n'avions la prétention ni l'un ni l'autre d'être des Télémaques, nous en prîmes notre parti. Nous nous recouchâmes au fond de notre canot respectif et nous sortîmes de la grotte d'azur, avec les mêmes précautions et le même bonheur que nous y étions entrés. Seulement nous fûmes 6 minutes sans pouvoir ouvrir les yeux. La clarté ardente du soleil nous aveuglait. Nous n'avions pas fait 100 pas que déjà ce que nous venions de voir n'avait plus pour nous que la consistance d'un rêve. Nous abordâmes de nouveau au port de Capri. Pendant que nous réglions nos comptes avec nos bateliers, Pietro nous montra un homme couché au grand soleil et étendu la face contre le sable. C'était le pêcheur qui, 9 ou 10 ans auparavant, avait découvert la grotte d'Azur en cherchant des fruits de mer le long des rochers. Il était venu aussitôt faire part de sa découverte aux autorités de l'île et leur avait demandé ou le privilège de conduire seul les voyageurs dans le nouveau monde qu'il avait découvert, ou une remise sur le prix que se feraient payer ceux qui les conduiraient. Les autorités, qui avaient vu dans cette découverte un moyen d'attirer les étrangers sur leur île, avaient accédé à la seconde proposition, de sorte que, depuis ce temps, le nouveau Christophe Colomb vivait de ses rentes, après lesquelles il ne se donnait pas même la peine de courir, et qui, on le voit, lui arrivait en dormant. C'était le personnage de toute l'île dont le sort était le plus envié. Comme nous avions vu tout ce que Capri pouvait nous offrir de curieux, nous remontâmes dans notre chaloupe et nous regagnâmes le Spéronard, qui, profitant de quelques bouffées de vent de terre, remit à la voile et s'achemina tout doucement dans la direction de Palerme.